Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Dans les émissions du vendredi Petit Secret de Fabrique, nous essayons en général de parler de sujets qui nous mènent loin de nos églises pour y rencontrer les périphéries chères au pape François ou y trouver trace de la vie de l'esprit dans les belles initiatives de notre monde. Aujourd'hui, c'est à la découverte d'un continent pas si lointain que je vous propose de partir, celui de notre cerveau ou plus précisément celui de notre mémoire. Comment fonctionne-t-elle? Comment mieux mémoriser et notamment aider nos enfants à la développer? Voilà cette émission Vivante Église, mémoire, comment aider nos enfants à apprendre. Je reçois ce matin Michel Génie, qui est retraité de l'enseignement, ancien professeur de physique-chimie à Saint-Joseph-la-Salle à Toulouse et formateur en neurosciences. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tâche ardue pour vous parce que vous allez nous parler de choses fort compliquées. Je vais essayer de vous aider pour rendre ça le plus didactique possible. Déjà, comment vous commenceriez peut-être par définir ce qu'est la mémoire? Que disent les scientifiques là-dessus?
Alors, on peut donner une définition simple et courte à la fois. C'est la mémoire, c'est notre capacité à nous rappeler des expériences passées. Et je pense qu'il faut distinguer mémoire et apprentissage, parce que souvent on fait la confusion entre les deux. L'apprentissage a un besoin impérieux de mémorisation, sans quoi il ne pourrait pas se produire, mais l'apprentissage, c'est le processus qui nous permettra ultérieurement de réaliser des tâches nouvelles.
Alors, je disais tout à l'heure en faisant du teasing pour l'émission à Quentin Hospitalier que je citais cette anecdote que j'ai trouvée dans le journal La Croix du mardi 16 mai de cette semaine, qui fait un dossier spécial sur l'art de la mémoire, qui rapporte donc que à 14 ans, Mozart avait, en ayant écouté une fois le Miséréré d'Allegri à la Chapelle Sixtine, fut capable, sans avoir pris de notes, d'en retranscrire l'intégralité de tête. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a tels écarts en fait? Dans les capacités de mémorisation, ça tient quoi? Ça tient au QI en fait de la personne ou c'est...
Non, je ne pense pas. Mais dans le cas de Mozart, comme dans celui des grands artistes ou plus simplement du petit artisan, il y a aussi le geste qui a été répété des millions de fois. Et donc,
En l'occurrence, il n'avait rien répété. C'est...
Non, mais les gammes musicales, certainement. Donc, son oreille était extrêmement entraînée, de façon que, pour lui, ce code musical, en fait, qu'il entendait, était relativement facile à reproduire. Donc, par rapport à nous, qui ne sommes pas nécessairement des praticiens de la musique, il est clair que ça relève de la performance.
C'est une vraie question quand on est enseignant, la question de la mémoire.
Oui, c'est une vraie préoccupation.
Qu'on voit quoi, des grandes inégalités entre les élèves ou parce qu'on se sent un peu démuni quand on est enseignant ou...
Alors si vous voulez, il y a une inégalité du fait que le métier d'élève a été plus ou moins bien intégré. Donc vous avez des élèves qui ont des techniques de mémorisation qui sont efficaces et d'autres qui font comme ils ont toujours fait, donc pas forcément de manière très efficace. C'est-à-dire que souvent le par cœur, par exemple, est la seule méthode qui est utilisée. Alors qu'en réalité, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Voilà, la répétition est indispensable, mais ça n'est pas suffisant.
Alors, il faut dire aussi, en introduction de cette émission, avant qu'on plonge un peu plus dans le sujet, que donc vous donnez des formations, en général sur les neurosciences, oui. Et donc entre autres sur la mémoire.
Oui.
Vous pouvez nous dire peut-être à qui vous donnez ces formations?
Alors, j'ai trois types de publics, si vous voulez. En intervenant en lycée avec un groupe d'élèves qui est suivi, enfin qui est accompagné justement pour le début du lycée, nous faisons avec quelques collègues un travail d'initiation aux mnémotechniques. Je travaille aussi actuellement avec un groupe d'enseignants et d'éducateurs dans un établissement du GER. Qui est du réseau lassalien, et plus récemment j'ai travaillé avec des retraités d'enseignement catholique, donc un public très différent.
Alors la mémoire, il y a différents types de mémoire, donc vous allez nous dire quel classement. Moi j'ai entendu dire qu'il y avait une mémoire de court, long terme, il y a aussi la mémoire sensorielle. Comment vous ne feriez les distinguos dans notre cerveau? Les choses sont classées un peu de manière assez différenciée.
Oui, alors si on veut une classification globale dans un premier temps, on peut dire qu'il y a deux grands types de mémoire. Celle que je sollicite de manière consciente lorsque je cherche à me rappeler le week-end que j'ai passé avec des amis.
L'émission que j'ai fait la veille, c'est ça?
Ou l'émission que j'ai fait la veille, ça c'est un acte conscient. Donc on fait appel à une mémoire qui est dite déclarative parce que j'ai conscience de la solliciter. Et il existe une autre mémoire, quand vous montez sur votre bicyclette, par exemple, ou que vous utilisez des couverts pour prendre votre repas, ce sont un certain nombre d'automatismes qui s'exécutent sans que vous ayez à les penser. Donc ça, c'est une mémoire qu'on qualifie de procédurale et qui est du même coup non consciente, en fait.
Donc consciente et inconsciente.
Consciente et inconsciente.
À l'intérieur de ça, vous faites d'autres distinctions. C'est-à-dire oui. Que là, pour le coup, il y a le court et le long terme, c'est ça?
Alors, on n'y est pas tout à fait encore, mais c'est vrai qu'il y a le court et le long terme, mais à l'intérieur de la mémoire déclarative, consciente, dont je viens de parler, en fait, vous avez deux modules. Vous avez une mémoire qu'on qualifie quelquefois d'autobiographique ou d'épisodique, c'est-à-dire c'est la mémoire des événements que j'ai traversés, par exemple le week-end que j'ai passé avec les amis.
Ou mes souvenirs d'enfance.
Ou mes souvenirs d'enfance, ça c'est de la mémoire épisodique, c'est-à-dire c'est moi dans le monde en fait. Et puis vous avez la mémoire sémantique qui, elle, est à un niveau plus élevé parce qu'elle dégage ce qui est commun à toutes ces expériences.
Par exemple ?
Alors par exemple, si je prends un petit enfant qui le mercredi matin est devant le téléviseur et voit un dessin animé de Titi et Grosminet, pour lui le mot canari est associé au petit personnage de bande dessinée qu'il va voir. Et ça peut le rester un certain temps, jusqu'au jour où il va découvrir...
que les canaris existent en dehors de Titi et Grosminet.
Voilà, dans un livre avec des photos ou dans une animalerie. Et petit à petit, le concept de canari va se bâtir dans sa tête, c'est-à-dire que ça n'est plus simplement le personnage, mais c'est quelque chose de plus général qui appartient à la catégorie oiseau et qui appartient à une super catégorie animal. Donc vous voyez, ça c'est de la mémoire sémantique.
Donc dans la mémoire consciente, il y a donc la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. Épisodique, c'est donc les souvenirs d'enfance, toute la mémoire personnelle, et sémantique, c'est donc l'association qu'on fait entre les mots, les dates et
voilà, c'est la construction des concepts.
Après, donc, dans la mémoire inconsciente, vous faites aussi deux distinguos. Alors, quels sont-ils ?
Dans la mémoire inconsciente, on peut voir d'une part tout ce qui relève des habiletés. Alors, je parlais de monter à bicyclette, par exemple. Ça, c'est une habileté, c'est un savoir-faire. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est de l'ordre des réactions conditionnées. Voilà. C'est-à-dire le fait de ressentir un malaise, par exemple, lorsqu'on se trouve dans un environnement qui a été stressant dans notre mémoire épisodique. Voilà. Donc, on ne va pas nécessairement se rappeler de l'événement, mais par contre, on va ressentir le malaise. Malaise de manière automatique.
Voilà, donc ça c'est les grandes distinctions. Et donc oui. À l'intérieur de ça, donc il y a la mémoire de court et de long terme. Alors le court terme, si j'ai bien compris, c'est quand par exemple, si vous me donniez une série de chiffres, en fait, je me souviendrai de cette série de chiffres. Et puis oui. Là-dedans, on a une capacité en fait très précise. J'ai cru comprendre que le chiffre 7 était un peu un chiffre magique pour cette mémoire à court terme.
Oui, alors en fait, c'est 7 plus ou moins 2 selon les individus. Mais effectivement, lorsque nous recevons de l'information par nos canaux sensoriels, donc par l'audition ou par la vision ou par l'odorat ou par le goût ou le toucher, ces informations sont stockées pendant des délais qui sont extrêmement courts. C'est un quart de seconde pour la vision, par exemple. Et c'est transféré dans ce qu'on appelle la mémoire à court terme. Cette mémoire à court terme, elle a une durée aussi relativement brève, qui est de l'ordre de la vingtaine de secondes.
Vous me preniez un exemple en préparant l'émission avec des séries de chiffres, justement.
Oui, alors par exemple, on peut donner... de nombreuses expériences ont été faites sur le sujet. Moi, je l'ai fait récemment dans le stage de formation. Vous donnez une liste d'une douzaine de nombres à retenir, par exemple, et puis vous les laissez juste le temps de la lecture. Après, vous demandez aux personnes de restituer les nombres qu'ils ont vus. Bon, en général, ça s'arrête autour de 5 et au plus à 7. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est stocké dans notre mémoire à court terme, et si on ne laisse pas le temps de transférer ça dans la mémoire à long terme, eh bien au bout d'une vingtaine de secondes, ça s'est effacé. Il y a un autre exemple qui est très connu aussi, c'est que vous avez, à un moment donné, l'intention d'aller dans une autre pièce de votre maison, vous êtes dans votre salon par exemple, et puis vous dites « il faut que j'aille à la cuisine pour aller chercher tel objet ». Donc vous faites le trajet du salon à la cuisine, mais pendant ce temps, d'autres pensées vous viennent, et donc vous êtes distrait, on va dire, par d'autres occupations. Vous arrivez à la cuisine,
et vous ne souvenez plus voilà. Pourquoi vous êtes venu.
Et vous ne savez plus pourquoi vous étiez là. Alors qu'est-ce que vous faites ? Habituellement, ben, vous revenez dans le salon.
Pour vous souvenir.
Voilà. Et à ce moment-là, ça ressurgit. C'est-à-dire que vous avez repris un indice de rappel qui a fait revenir. Sans ça, au bout d'une vingtaine de secondes, c'est effacé.
Alors ça veut dire que toute la réalité qui nous arrive, en fait, notre cerveau fait un filtre entre court et long terme, ou est-ce que tout est en général du court terme, et puis après il y a une partie du court terme qui devient du long terme et qui du coup qui est assimilée dans notre disque dur d'une certaine
manière. Oui, c'est
manière.
Plutôt la deuxième affirmation, c'est-à-dire qu'on a un passage obligatoire par cette mémoire à court terme, qu'on appelle d'ailleurs maintenant mémoire de travail, à cause de la richesse de ses fonctionnalités. Et cette mémoire à court terme, elle va transférer après dans la mémoire à long terme par l'intermédiaire d'une zone cérébrale qui s'appelle l'hippocampe, qui est dans la partie médiane, on va dire, du cerveau, dans la zone qui est...
Alors peut-être on va venir juste après sur la manière dont ça fonctionne. Juste la mémoire long terme, qu'est-ce que c'est ? C'est tout le reste, en fait, en dehors de ces espèces de 20 secondes et de chiffres 7 qu'on a à disposition.
Oui, oui, oui. Elle fait appel à la fois à la mémoire épisodique, à la mémoire sémantique. C'est une mémoire qui reste active pendant toute la vie. C'est-à-dire, bon, il est probable que vous vous rappellerez les tables de multiplication, même quand vous aurez 80 ans. Voilà. Ça, c'est de la mémoire à long terme. C'est-à-dire ce qui est inscrit de façon durable et consolidée peut durer toute la vie.
Alors, est-ce qu'on a toute une partie de notre cerveau, en fait, qui stocke une mémoire dont qu'on n'utilise jamais, en fait, parce que vous parliez de la mémoire inconsciente. Quelle partie, en fait, de notre mémoire, d'une certaine manière, on utilise ? Je pense souvent à ce qu'on dit des personnes âgées, où plus on avance en âge, il paraît que même à la toute fin de sa vie, on finit par avoir des souvenirs de sa prime jeunesse. Est-ce qu'on sait un peu, je sais pas, le taux d'utilisation du cerveau, de la mémoire ?
Alors, il y a une idée faussement répandue qui est nous n'utilisons que 10% de notre cerveau.
Ça dépend de qui.
Ben, il n'y a rien de plus faux, c'est-à-dire le cerveau est toujours à 100%. Ce qui a fait dire ça à un moment donné, c'est qu'on a calculé, vous savez que le cerveau contient à peu près 200 milliards de neurones. Chaque neurone peut avoir jusqu'à 10 000 synapses, c'est-à-dire 10 000 points de contact avec d'autres neurones. On a fait un calcul mathématique du nombre d'associations possible, et évidemment ce nombre-là il est énorme, hein. C'est un 10 suivi de 28 zéros, un 1 pardon suivi de 28 zéros, donc c'est...
Et quand vous dites 100%, c'est-à-dire que c'est 100% de ces 10 000 synapses fois 200 000 milliards, c'est ça
c'est de... 100% de nos neurones qui sont constamment en activité, oui. Oui.
Et la mémoire là-dedans, alors donc on utilise toujours 100% de notre mémoire, pour autant on ne se souvient pas toujours de tout, c'est...
Oui, c'est
et parfois
exact.
Des souvenirs ressurgissent, c'est...
Voilà, la mémoire est illimitée, si vous voulez. Les souvenirs sont stockés au fur et à mesure. D'ailleurs, vous savez, il y a un phénomène que vous connaissez qui s'appelle le souvenir mystère.
Non, je ne connais pas.
Alors, je vous explique, vous rendez dans un lieu où vous n'êtes pas allé depuis très longtemps, et puis une fois que vous êtes dans ce lieu, l'environnement que vous voyez, éventuellement les odeurs que vous sentez, les bruits que vous entendez, vont faire ressurgir un souvenir ancien que vous pensiez avoir totalement oublié. En fait, non, il est toujours là, mais des indices de rappel forts ont fait émerger ce qui était dans votre mémoire à long terme. Donc on peut dire que la mémoire a cet aspect illimité. L'oubli, ça n'est pas l'effacement de ce qui est dans votre tête. C'est la perte des indices qui font rappeler, hein, qui vont drainer les différentes zones qui ont été activées dans un épisode ancien.
Alors après, comment ça marche ? Vous nous avez parlé de l'hippocampe.
Hippocampe, oui.
Voilà, je vais vous dire moi ce que j'en ai compris. Donc l'hippocampe, c'est comme une espèce de super, comment dire, garde-triage, en fait, c'est ça ?
Oui,
voilà.
Oui, oui.
Après, donc, il y a des influx nerveux, en fait, qui relient tous ces synapses et donc qui activent d'une certaine manière un système de mémorisation, comme si on reliait, en fait, les souvenirs, et puis après ça laisse ce qu'on appelle des traces mnésiques. Alors est-ce que j'ai bien compris ? Expliquez-nous ça peut-être à l'endroit.
Oui, si vous voulez, ce qui est perçu par les récepteurs sensoriels est envoyé vers l'hippocampe qui après redistribue dans les différentes zones du cerveau.
Alors juste, qu'est-ce que c'est que l'hippocampe, dites-nous ? C'est une zone du cerveau, c'est ça ?
C'est une zone qui est dans le cerveau médian, dont la forme rappelle d'ailleurs vaguement la queue du petit animal marin. Et donc, elle joue un rôle très important dans, disons, la répartition des informations dans le cortex. En fait, la mémoire n'est pas vraiment localisée, si vous voulez. On ne sait pas trop où elle est de façon précise.
En tout cas, ça passe par l'hippocampe.
Voilà, c'est un peu le chef d'orchestre, si vous voulez, l'hippocampe.
Et après, donc ça va où
Alors après, ça va dans les différentes zones fonctionnelles, c'est-à-dire dans le cortex visuel, par exemple, où vous allez avoir un stockage, non seulement le traitement de l'information perçue par la vision, mais également le stockage de l'information visuelle. Après, vous avez dans le langage, par exemple, qui va se trouver dans des zones temporales. Et le souvenir, si vous voulez, épisodique, il est ventilé dans ces différentes zones. Ce qui fait que l'hippocampe, c'est un peu le chef d'orchestre qui va récupérer tout ça et le réassembler.
Alors, pour finir, avant qu'on fasse une première pause, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les différents critères de mémorisation ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on mémorise plus ou moins bien ?
Alors, il y a un certain nombre de conditions qu'on peut rappeler ici. D'abord, il y a une condition qui est liée à la forme physique. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut être non seulement en bonne santé, mais avoir bien dormi, parce que le sommeil permet la consolidation. Il faut également être motivé pour le travail de mémorisation qu'on va faire. Ça, c'est un problème au niveau des jeunes, hein. C'est-à-dire quand on y va reculons, ce sera forcément plus difficile.
Et c'est quoi ? C'est le degré de concentration ou c'est aussi l'envie de retenir ?
Voilà, oui, plutôt ça. C'est pas la vigilance en fait. C'est qu'il faut que le jeune soit dans un état d'expectative par rapport à la performance qu'il fera s'il a bien mémorisé. Donc c'est ça, installer sa motivation. J'ai envie d'apprendre et pas... souvent c'est j'apprends parce qu'il faut que je le fasse, parce qu'il y a contrôle. Bon. Donc ça, ce sont les premières conditions. Après, il faut éviter qu'il y ait une concurrence cognitive. C'est-à-dire, par exemple, avoir le casque sur les oreilles avec de la musique chantée dedans.
Ou le smartphone sous la table.
Voilà. Donc, ça relève de notre processus. Mais le fait d'écouter de la musique chantée avec des paroles en français, par exemple, ça c'est très nuisible à l'apprentissage. Parce que le cerveau va essayer de traiter à la fois ce qui est lu et ce qui est entendu. Ça c'est un problème. Après, il faut le plus possible associer des images à ce qu'on apprend. Parce que ce sont des indices de rappel extrêmement puissants. Il faut aussi structurer ce qu'on apprend. C'est-à-dire ce qui n'est pas organisé, le cerveau n'aime pas. Il aime bien ce qui est structuré, ce qui est catégorisé. Il aime bien ce qui a du sens. Voilà. Si je vous donne une liste de mots étrangers en norvégien, par exemple, et si vous ne parlez pas le norvégien, vous aurez probablement beaucoup de mal à le mémoriser parce que ça n'est pas dans votre mémoire lexicale et qu'il va falloir l'y installer, etc. Si ça ne prend pas du sens pour vous, ce sera difficile à retenir. Voilà. Et puis après, il ne faut pas hésiter à rabâcher parce que c'est par la répétition qu'on apprend.
Alors Michel Génie, bravo, merci beaucoup de cette première introduction sur le monde de la mémoire dans notre cerveau. Si vous n'avez pas tout retenu, c'est pas grave, on vous donnera quelques indications à la fin de cette émission, peut-être renvoie à différentes lectures. On va faire une première pause et puis après on va essayer de voir comment booster notre mémoire, parce qu'en fait il y a des moyens, des techniques toutes simples, qui peuvent être toutes simples une fois que vous nous aurez bien expliqué, et qui peuvent aider à booster cette mémoire.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission ce matin, mémoire, comment aider nos enfants à apprendre avec, et puis comment nous aider tout simplement à apprendre avec Michel Geny, qui est retraité de l'enseignement, ancien professeur de physique chimie à Saint-Joseph-la-Salle à Toulouse et donc formateur en neurosciences et qui fait entre autres donc des formations sur le thème de la mémoire. Alors, avant qu'on voit peut-être Michel Geny, quelques techniques pour essayer de booster sa mémoire, je voulais revenir juste sur l'importance que vous avez citée d'avoir une bonne hygiène de vie et surtout sur le sommeil. Qu'est-ce qui se passe en fait dans le cerveau ? Est-ce que de fait, en fait, il faut toujours dormir d'une certaine manière et c'est là où le disque dur travaille et assimile, ordonne, classe.
Oui, c'est-à-dire pendant le sommeil, vous avez un mécanisme d'auto-répétition qui fait que le cerveau reparcourt en fait ce qui a été les épisodes qui se sont produits pendant la journée. Et donc pendant ce travail de relecture, si on peut dire, de ce qui a été mis dans la mémoire à long terme, vous avez un phénomène de neuroplasticité qui font que des connexions entre neurones vont se bâtir pendant le sommeil. Et donc, en fait, tout le monde connaît cette impression de se réveiller le matin avec une vision beaucoup plus limpide de ce qu'on a pu étudier la veille et qui paraissait éventuellement confus.
Ou à contrario, quand il y a eu beaucoup, beaucoup d'informations la veille, de se réveiller fatigué parce qu'on a l'impression que le cerveau a travaillé toute la nuit pour assimiler...
Oui, tout à fait. Ça, c'est le phénomène de surcharge, et c'est d'ailleurs un des facteurs de l'oubli chez les jeunes. C'est-à-dire que l'absence de motivation, je disais tout à l'heure que la motivation est indispensable, quand elle n'y est pas, on a tendance à procrastiner, c'est-à-dire à remettre à demain, jusqu'à se trouver la veille au soir, tard, à faire énormément de choses, et donc la surcharge de mots et de notions dans le cerveau, au contraire, va susciter de l'oubli.
Alors, il y a une première méthode, ça s'appelle la méthode des lieux, ou ça s'appelle aussi la méthode des loci, j'imagine que c'est un synonyme.
Oui, du nom latin.
Voilà, tout simplement.
Locus,
oui,
merci, lieu.
Voilà, merci d'être plus cultivé que moi sur ce sujet. Je vais vous dire ce que j'en ai compris par un exemple. Quelqu'un qui, pour mémoriser un trajet, va choisir un certain nombre de repères lors d'un trajet. On peut imaginer par exemple, je sais pas, une course d'orientation, un truc comme ça, et va associer en fait à chaque lieu un mot ou une idée. Et puis, en fait, du coup, il semble-t-il, ça aiderait à se souvenir du trajet. Je vous avouerai que quand j'ai regardé, je me suis dit que c'était quand même assez compliqué, qu'il fallait vraiment être très motivé.
Alors, c'est pas tout à fait ça. Je vais vous remettre sur la bonne voie. Voilà, la méthode de Loci, elle est pas toute jeune, puisqu'elle serait née en 477 avant Jésus-Christ. C'est un poète lyrique qui s'appelait Simonide de Céos qui aurait eu cette idée-là de raccrocher ses souvenirs par bribes, c'est-à-dire ce qu'il a mémorisé. Imaginons que ce soit une poésie, par exemple. On va accrocher un vers du poème à une étape d'un voyage. Donc Simonide de Céos imagine un voyage en Grèce et à chaque ville qu'il traverse, il associe un vers, par exemple, du poème qu'il doit retenir. Et donc, lorsqu'il déclame son poème devant, devant son public, il lui suffit mentalement de refaire son voyage.
Et quoi, et les mots reviennent tout seuls.
Et voilà, et c'est un indice de rappel puissant, surtout si le circuit est familier. Voilà.
Vous utilisez, vous, cette méthode, par exemple?
Alors, moi, j'utilise de temps en temps la méthode des lieux dans ma propre maison, si vous voulez. Donc, j'ai un parcours qui part du garage et qui me fait traverser les différentes pièces de la maison. Toujours le même parcours, parce qu'il faut que ça soit une association stable.
Et vous associez quoi à ce parcours dans ces cas-là?
Alors,
différentes choses.
J'associe par exemple les parties d'une formation seront plus facilement mémorisées si je les parcours comme ça. Ce qui fait qu'à la limite, même si je n'avais aucune note, je pourrais fort bien
vous souvenir du plan de votre conférence, etc.
Tout à fait.
Méthode des lieux, voilà. Donc il n'y a rien de plus à dire, en fait, il faut juste après apprendre à s'exercer, donc trouver en fait un parcours mental à faire, et puis voilà. Après y associer...
Il faut quelque chose de stable, c'est-à-dire il faut que ça soit le plus familier possible. Donc,
par exemple son trajet domicile-travail.
Voilà. Ou la maison. Les Romains utilisaient la maison, on appelait ça la méthode de la chambre romaine. Plus tard au Moyen-Âge, on a utilisé les cathédrales, voilà.
C'est un exemple que vous citez donc aux formateurs et aussi aux élèves. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de cas dans lequel l'élève pourrait l'utiliser? Parce qu'on se dit qu'apprendre des leçons entières, ça fait quand même faire plusieurs fois le tour de la maison dans ces cas-là.
Oui, je pense qu'on peut l'utiliser en particulier pour les cours scientifiques. Moi, je pense qu'un cours de biologie, un cours de SVT ou un cours de sciences physiques peut être mémorisé à l'aide de la méthode des Loci.
Mais on mémorise la structure de la leçon,
c'est
qu'elle n'a pas le détail.
Mais après, pour le détail, on pourra utiliser d'autres méthodes. C'est-à-dire que dans chacun des lieux qui servent d'indice de rappel, on va pouvoir voir se dérouler une scène qui contient en fait d'autres images associatives et qui font ressurgir le détail.
Donc, première méthode, la méthode des lieux. Donc, vous prenez votre trajet domicile-travail ou un trajet que vous avez l'habitude de faire dans votre maison. Voilà, oui. Encore faut-il qu'elle soit assez grande, sinon ça fait faire 5 fois le tour de la pièce.
Le simple décor, vous savez, un artiste de music-hall qui s'appelle Olivier Lejeune et qui, lui, n'utilise que sa cuisine. Mais tous les ustensiles qui sont dans la cuisine et les objets qui s'y trouvent servent de repère. C'est aussi la méthode des lieux.
Voilà, donc, et on y associe des concepts
des
mots-clés ou des chiffres,
des images.
J'imagine,
des
images.
Des images.
Et puis avec ça, donc, vous revient le plan. Alors, deuxième méthode, c'est, vous appelez ça la méthode des associations. Alors, semble-t-il, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de cette méthode. En introduction, peut-être pour rendre ça le plus didactique possible, parmi les documents que vous m'avez donnés pour préparer l'émission, je suis tombé donc sur le champion du monde de la mémorisation. Alors, je vais décrire ce que j'ai vu. Il prend un jeu de cartes et il regarde les cartes à une vitesse incroyable les unes derrière les autres. Ça lui prend 24 secondes, je crois.
Oui, pour 54 cartes.
24 secondes 97 pour 54 cartes. Et puis après, il les pose et en fait, il mélange le jeu et il arrive à remettre les cartes les unes derrière les autres dans un ordre parfait. Alors, comment est-ce qu'il s'y prend? Quelle méthode d'association utilise ce petit génie?
Alors, les associations, d'ailleurs, c'est plus un principe qu'une méthode, puisque plusieurs méthodes mnémotechniques utilisent les associations. Associer, ça porte bien son nom, c'est mettre en relation le mot à retenir ou la chose à retenir avec un autre élément qui va servir d'indice de rappel. Dans le cas des cartes, par exemple, vous avez différentes méthodes qui peuvent être utilisées. Vous avez, par exemple, un mnémoniste français qui, lui, se sert...
Mnémoniste. C'est spécialistes de la mémoire.
Spécialistes de la mémoire.
C'est ceux qui font des championnats du monde.
C'est ceux qui font des concours. Lui utilise un système qui est proche du système des lieux avec des personnages. Donc, pour les piques, par exemple, il va prendre, je ne sais plus si c'est cet ordre-là, mais pour les piques, il va prendre des personnages célèbres.
Les piques, c'est-à-dire
les piques, pour les cartes à jouer.
Oui, d'accord.
Voilà, la famille des piques. Pour cœur, il va prendre, par exemple, des personnages fictifs, de bandes dessinées, voilà. Pour carreau, il va prendre
des membres de sa famille, par exemple.
Alors, des membres de sa famille, ou bien des connaissances hommes, et puis des connaissances femmes. Et donc, chaque fois qu'il tire une carte, il met le personnage dans une situation familière pour laquelle il est identifié. Et après, il se contente.
C'est-à-dire, il visualise en fait la personne
exact.
Dans une situation familière. D'accord.
Tout à fait. En faisant un geste qu'elle a l'habitude de faire, par exemple. Et donc, il fixe cette image dynamique qui, pour lui, est l'indice de rappel de la carte qu'il a visualisée.
Donc ça n'est pas utilisé que pour les champions de poker. Parce que j'ai vu aussi une autre vidéo avec un champion de poker qui retient du coup toutes les cartes du jeu et qui sait... Oui. Ce que en fait, la partie adverse a en main, d'une certaine manière.
C'est-à-dire par déduction, à partir des cartes tirées, oui, effectivement.
Alors, quelle utilisation ? Est-ce que vous pouvez nous prendre des exemples dans ces cas-là, peut-être plus courants pour la vie des parents ou des élèves ?
Il y a un très vaste champ d'application parce qu'il y a différentes façons de faire des associations. On peut faire des associations imagées, on peut faire des associations phonétiques. Par exemple, si on parle des lycéens, pour retenir les fonctions trigonométriques, on leur apprend sino pipo cosa gipo. Alors qui ne veut absolument rien dire, mais justement parce qu'il y a une rime, c'est facile à retenir, et ça contient finalement la définition du sinus et du cosinus. Voilà. Bon, il y en a d'autres, la classification périodique des éléments, on peut décliner, Napoléon mangea allègrement six poulets sans claquer d'argent, qui fait revenir le sodium, le magnésium, le silicium, l'aluminium, le silicium, etc. Ça, ce sont des associations de type phonétique. Vous avez aussi des associations par la lettre initiale, on crée une phrase clé avec l'initiale de chaque mot-clé à retenir. Voilà. Ma vieille terre montre joliment son univers nuageux. Mercure, ma vieille Vénus, terre, la terre, etc. Et donc on a les planètes du système solaire de cette manière-là. Ça, ce sont des associations qui sont basées sur le verbal. Après, vous avez des associations de type imagé. Par exemple, pour faire retenir à mes élèves la formule du périmètre du cercle, je montre une photo sur laquelle on voit une immense plage, quelqu'un court en laissant une trace circulaire sur le sable, et au centre de ce cercle-là, il y a deux galets qui sont posés l'un sur l'autre. Voilà. Et donc, on a bien le concept de cercle, et au centre, deux pierres. Enfin, deux pierres, deux cailloux, si vous voulez, et puis deux pi R qui est phonétiquement la
c'est
formule.
Sûr que là, on s'en souvient. Oui, après, oui,
bon, voilà, ça, c'est un exemple d'association imagée.
Et dans ces cas-là, vous le donnez comme ça pendant le cours, l'image, et puis hop, du coup, ça les aide, en fait, sans qu'ils s'en rendent compte, c'est ça ?
C'est-à-dire, je pense qu'en même temps, il faut faire un apprentissage. C'est-à-dire, il faut dire, vous voyez comment on a créé cette image-là, et en quoi elle est puissante. Parce qu'elle est limpide, elle ne risque pas de faire venir autre chose, elle est quelque part exagérée ou grotesque, parce que, bon, ce type qui courant en rond, ça n'a pas de sens. Et tout ça, ce sont des indices qui vont favoriser la mémorisation et le rappel.
Voilà, donc méthode des associations. Donc il y a de multiples méthodes des associations, comme on vient de le voir. En tout cas, ça peut être une bonne piste. Est-ce que c'est pas à utiliser surtout justement pour des petites choses ? Vous avez l'air de vous citer là une formule, vous citez les planètes. On peut pas utiliser la méthode des associations pour apprendre des cours entiers. C'est...
Si, parce qu'on peut mémoriser des centaines voire des milliers de mots clés. Bon, après c'est une question d'entraînement. C'est comme Mozart. Si vous voulez, plus vous le faites fonctionner cette méthode d'association, et plus vous libérez votre créativité, et plus vous serez performant.
Dernière méthode que vous vouliez citer avant qu'on fasse une deuxième pause, c'est la méthode des cartes mentales. Alors, vous êtes arrivé à cette émission avec une carte mentale. Je me suis même dit, mon Dieu, il a pris que ça comme note. J'étais très inquiet. Donc, vous avez devant vous une carte. C'est quoi ces cartes mentales, en fait ? C'est ce qu'on appelle aussi le mind mapping aujourd'hui ?
Oui, c'est ça.
Dans certaines entreprises, on fait ça pour arriver à visualiser en fait ce qu'on essaie de mettre en route comme vision, comme processus d'action.
C'est une technique qui favorise l'invention, si vous voulez, et la création. Moi, personnellement,
qu'est-ce que c'est déjà ? Peut-être décrivez.
Alors, le fonctionnement est relativement simple. Il s'inspire du fonctionnement de la mémoire. La mémoire n'est pas linéaire, elle est arborescente. On l'a un peu expliqué tout à l'heure avec le canari et les concepts. Donc, elle fonctionne par ramification et par circuit qui se propage, on pourrait dire, en étoile.
Donc, on commence par visualiser cette arborescence d'une certaine manière.
En fait, ça va se construire petit à petit. Le principe est simple, c'est le psychologue anglais Tony Buzan qui a créé cette technique-là. enfin, ou plutôt qu'il a mise au goût du jour, parce que dans l'Antiquité, on y trouve aussi quelques prémices. Donc on met au centre d'une feuille vierge le concept sur lequel on veut réfléchir et faire venir des idées. Et au fur et à mesure que des idées...
Par exemple, pour vous, c'est...
Alors pour moi, c'était mémoire, là, quand j'ai préparé ma formation. Et au fur et à mesure que les idées vous viennent sur ce concept-là, les idées principales, vous vous posez la question, qu'est-ce qui est fondamental là-dessus? Et donc, vous allez faire quelques premières ramifications qui seront des branches principales. Après, chaque ramification, vous allez lui superposer un mot que vous écrivez en majuscule pour la lisibilité, qui représente en fait l'idée qui est dans cette branche principale. Et très rapidement, vous allez vous apercevoir que chacun de ces mots fait venir d'autres idées, que vous allez donc rajouter sur ces branches principales en faisant des branches secondaires. Et donc petit à petit, vous avez votre diagramme, votre arborescence qui se développe. Donc vous êtes parti du tronc, si on peut dire.
Donc vous pouvez arriver à une réunion de travail avec juste cet arbre, et vous viendra par association, en fait, tout ce que vous voulez dire autour de ce sujet, c'est ça?
Voilà,
c'est...
voilà. Ce que je trouve intéressant dans ce système-là, c'est que il est très intéressant pour faire le point sur ce que je sais, par exemple, sur tel sujet. Moi, je le montrais à mes élèves essentiellement pour cette raison. Voilà, vous révisez pour préparer un examen, vous voulez faire le point sur ce que vous savez sur l'atome, par exemple, mettez atome au centre de la feuille, et puis, voilà, laissez venir tout ce que vous savez sur le sujet.
Et si l'arbre n'a pas beaucoup de branches, c'est qu'il faut continuer à réviser.
Oui, voilà. Oui, tout à fait. Parce qu'après, on peut comparer avec d'autres sources et se rendre compte de la richesse ou pas.
Voilà, donc trois techniques. La méthode des lieux, la méthode des associations et la méthode des cartes mentales. On va s'arrêter là. Trois techniques pour booster sa mémoire. C'est pareil, on vous donnera quelques lectures à la fin de cette émission, peut-être pour revenir sur ce qui vient d'être dit pour les enseignants qui nous écouteraient ou tous ceux qui voudraient essayer de mémoriser justement tout ce qu'on vient de dire.
Thank you. Plaisance à Salis du Salat 94.1.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, cette émission Vivante Église ce matin, mémoire, comment aider nos enfants à apprendre et comment plus généralement nous aider à mieux mémoriser avec Michel Génie. Je vous rappelle qu'il est un ancien enseignant de professeur de physique chimie à Toulouse et formateur en neurosciences et donc qui nous aide à comprendre comment fonctionne la mémoire. Alors, dans cette dernière partie d'émission, peut-être quelques petits trucs ou quelque chose encore à savoir sur la mémoire. Et je voulais d'abord vous interroger aussi sur des choses qu'on peut lire de temps en temps dans la presse, entre autres sur les capacités d'apprentissage des tout-petits. Je regardais une vidéo que vous m'aviez envoyée hier en préparant l'émission qui montrait une expérience en fait où on fait reconnaître un tout-petit, un nouveau-né qui a quelques mois, des syllabes en indien. Oui. Et en fait, son cerveau réagit comme s'il reconnaissait en fait les mots en indien, alors que un cerveau d'adulte ne les reconnaît pas.
Oui.
Et alors, ce reportage en déduisait qu'en fait, c'est comme si on avait un stock en fait de routes dans notre cerveau. Alors, c'est comme ça qu'il décrivait. Comme si on avait un stock de routes qui peuvent reconnaître différents chemins, entre autres des chemins linguistiques, et puis qui s'éteignent au fur et à mesure parce qu'on ne les utilise pas. C'est-à-dire qu'on est en fait avec un potentiel de mémorisation qui est gigantesque quand on est tout petit.
Oui, qui va rester d'ailleurs sensiblement le même pendant toute la vie.
Mais qu'est-ce qui fait que l'adulte, en l'occurrence, ne reconnaît pas les syllabes en
anglais ? À partir de l'âge de 2 ans. Mais si vous voulez... Il faut bien comprendre que le souvenir, il est lié à la présence d'assemblées de neurones, c'est-à-dire de neurones qui sont interconnectés entre eux. Chez le tout petit, les apprentissages n'étant pas faits, enfin en tout cas au niveau linguistique, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va donner des syllabes avec des intonations sensiblement différentes, pour lui, il va percevoir les différences de stimuli. Et donc, les assemblées de neurones qui vont être sollicitées ne seront pas les mêmes. Au fur et à mesure de ces apprentissages, il va entendre le plus souvent les syllabes de sa langue maternelle et pas celles des langues étrangères. Donc si, à un moment donné, dans sa toute petite enfance, il avait pu distinguer des syllabes prononcées en hindi, dans le cas que vous rappelez, le fait qu'une syllabe très proche... appartenant à sa langue maternelle va être entendu des millions de fois, va faire que l'assemblée de neurones qui est stimulée par cette syllabe-là est très régulièrement activée, donc on a un effet de consolidation.
Donc vous voulez nous dire qu'en fait c'est comme si quand on était tout petit, on pouvait rentrer dans une multitude de forêts, en fait, quelque part, et à force de rentrer tout le temps dans la même, eh ben, on reconnaît les arbres, mais au début, on pouvait rentrer dans 50 forêts différentes, quelque part.
C'est-à-dire, on pourrait y tracer 50 chemins, mais à force de marcher toujours sur le même chemin, il finit par devenir une autoroute.
D'où, du coup, l'idée de faire apprendre les langues étrangères très tôt, en fait. Certains disent qu'il faut apprendre dès les premières années.
Disons qu'on, voilà, effectivement, on a plus de chances de créer des chemins diversifiés en faisant un apprentissage précoce.
Donc ça, c'était la parenthèse introductive donc sur ce qu'on dit des tout-petits. Alors, il y a aussi, semble-t-il, différents rythmes de mémorisation. Vous vouliez nous attirer notre attention sur ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, qu'il y a différents rythmes de mémorisation ?
Alors, il y a deux aspects, si vous voulez. Premier aspect, c'est lorsque vous assistez à une séance d'information verbale, on va dire, pour simplifier.
Donc un cours.
Un cours, éventuellement avec des images. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on fait un test sur un échantillon d'élèves relativement important, on s'aperçoit que ce qui a été dit au début est plutôt bien retenu. Et ce qui est à la fin un peu moins bien, mais ce qui est au milieu, par contre, ça l'est beaucoup moins. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a un effet de primauté au début de la séance d'information.
C'est la même chose quand on écrit un article. Il paraît qu'il faut faire attention à l'accroche et à la chute, parce que
et bien voilà.
Les gens lisent l'intro et la conclusion, mais pas le reste.
Exactement. Et à la fin, c'est la mémoire à court terme, en fait, qui garde la trace de ce qui s'est fait à la fin. Donc, au milieu, si vous n'avez pas d'association... parce que les associations permettent de relever le niveau de retention ou les singularités. C'est-à-dire si à un moment donné il s'est passé quelque chose de particulièrement drôle ou de particulièrement intense au niveau émotionnel, ça va rester. Donc il faut avoir conscience du fait que pendant une séance de prise d'information, on a cette évolution.
Et qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut dire que les enseignants doivent donner l'essentiel au début et à la fin, et au milieu, il faut qu'ils fassent une petite diversion, une petite blague, un petit PowerPoint pour arriver à retenir l'attention.
Ouais, tout à fait, je crois ça. Et je crois qu'il ne faut pas dépasser une vingtaine de minutes d'informations en continu. Et puis, au bout de cette vingtaine de minutes, il faut ménager une pause de quelques minutes. Alors, non pas laisser une liberté totale, parce qu'il faut bien gérer sa classe aussi. Mais il faut avoir une activité qui soit fondamentalement différente, de façon à ce que... Bon, alors, on fait...
Qu'est-ce que vous faisiez, vous, en tant qu'enseignant de physique-chimie, par exemple ? Vous donniez l'essentiel du cours au début, et après, vous faisiez quoi, du coup, le reste de l'heure ?
Alors l'essentiel au début non, c'était réparti, mais j'essayais de d'émailler la séquence avec d'autres activités. Voilà. Donc soit vous montrez une projection, vous montrez un document vidéo, ou voilà. C'est-à-dire que vous faites en sorte que ce qui a précédé est coupé de la suite par une activité qui va être différente.
Alors l'autre chose sur laquelle vous vouliez attirer notre attention, c'est sur l'oubli. Qu'est-ce que vous voulez nous dire exactement sur ce sujet ?
Alors, ce que je voulais dire, c'est que l'oubli, ça n'est pas l'effacement. On ne perd pas les éléments épisodiques de notre vie sont toujours dans notre tête.
Sauf quand c'est la mémoire du court terme, c'est ce qu'on disait au début de l'émission.
Sauf quand c'est la mémoire à court terme, ouais. Parce que là, sa capacité, déjà, elle est limitée, ouais. Dans la durée et dans la quantité.
D'accord.
Voilà. Mais ce qui est dans la mémoire à long terme, après, va y rester. Mais par contre, on peut dire je me souviens plus. Et je ne me souviens plus, ça ne veut pas dire je ne l'ai plus dans ma tête, ça veut dire j'ai perdu les indices de rappel qui font revenir. Vous savez, on parle, par exemple, de ce qu'on appelle le souvenir mystère. Vous allez sur un lieu de
Vous avez dit ça au début de l'émission.
Voilà, hein, voilà. De votre enfance, et ouais. Donc vous faites ressurgir ces souvenirs. Donc ce qui veut dire, c'est toujours là, mais simplement la présence de l'indice de rappel va réactiver.
Et alors pourquoi c'est important d'avoir conscience de cet oubli, en fait, qui n'en est pas un ? C'est-à-dire que vous disiez, du coup, que c'est important, là, pour l'occurrence, puisque ça s'adresse aux parents, de reprendre... derrière un cours, le soir, voilà. Le cours, parce que sinon c'est la seule manière. Alors, d'assimiler, c'est ça ?
Ça c'est le deuxième aspect, si vous voulez. Ça a été mis en évidence en 1885 par quelqu'un qui s'appelait Ebbinghaus, qui a mis en évidence expérimentalement une courbe de l'oubli qui montre que dans les 24 heures, on perd grosso modo 80% de ce qu'on a reçu au cours d'une séquence d'informations.
Sauf si on revient dessus.
Alors, sauf si on réactive, c'est-à-dire sauf si on reprend ses notes ou qu'on va chercher dans une ressource imprimée, par exemple, des éléments qui sont en relation avec cette information reçue.
Voilà, et c'est la même chose pour une émission de radio. Si on veut s'en souvenir, il faut
tout
la réécouter ce soir à 21h.
Et puis une seule réactivation ne suffira pas. Il faut faire dans les 24 heures, dans la semaine, dans le mois et dans les 3 à 6 mois.
La dernière chose, c'était sur le vieillissement. Donc ça, évidemment, c'est presque un sujet de santé publique. Hein. Il y a plein de causes de dégénérescence. Il y a des maladies. Hein. On parle souvent d'Alzheimer. Mais c'est pas la seule, on peut avoir des troubles de la mémoire au fur et à mesure, et puis parfois même après une attaque cardiaque, on peut avoir comme ça des zones dans notre cerveau qui ont été entamées, et du coup il y a des choses dont on ne se souvient plus. Qu'est-ce que vous voudriez nous dire sur la mémoire ?
Alors, première chose, c'est que détérioration de la mémoire, si vous voulez, elle n'est ni irrémédiable ni inéluctable. La cause première, c'est que il y a un ralentissement des fonctions qui sont actives pendant la mémorisation. Donc ce ralentissement va faire que la mémoire à court terme, par exemple, va perdre un petit peu de sa capacité, et donc par conséquent, on aura plus de mal à stocker la mémoire à long terme. Par contre, la mémoire sémantique n'est pas affectée par le vieillissement. Ça veut dire que je vais garder mes souvenirs anciens.
Voilà, sémantique, je me souviens, donc c'est la situation, les personnes, par exemple, se souvenir d'un ami, de ce qu'on a vécu avec lui, enfin, ou de dates, ou de...
Et de ce qui est en commun à tous les épisodes, c'est-à-dire tout, les concepts, en fait, vont rester. Mais par contre, bon, la mémoire épisodique peut être un peu appauvrie parce qu'on va perdre le...
Épisodique, c'est tout ce qui est souvenir voilà, d'enfance, etc.
On va perdre le contexte, c'est-à-dire on va garder la mémoire des événements, mais pas nécessairement des lieux et des dates auxquelles ça s'est produit. Voilà. Puis il y a une petite perte neuronale aussi au niveau du cortex frontal qui fait que c'est un des facteurs qui joue sur le vieillissement.
C'est-à-dire que pour les personnes du coup d'un certain âge qui nous écoutent, c'est pareil, elles peuvent utiliser les techniques de mémorisation qu'on a citées tout à l'heure. Comment est-ce qu'elles peuvent faire travailler leur mémoire?
Écoutez, restez actifs, restez curieux et restez en bonne santé, faites du sport. Et puis, utilisez les associations. Quand vous devez faire vos courses au supermarché, faites des associations. C'est-à-dire, liez les éléments de vos courses dans une petite histoire idiote et rigolote et vous verrez que vous arrivez parfaitement à retenir les choses. Voilà.
Oui, vous vouliez ajouter une dernière chose?
Peut-être la dernière chose que je voulais dire, c'est que vous avez cité Alzheimer. Dans les maladies qui affectent l'hippocampe, par exemple, il est clair qu'on aura une amnésie antérograde, c'est-à-dire qu'on aura du mal à retenir des choses nouvelles, alors que par contre, ça ne va pas affecter les souvenirs anciens. Hein, c'est le cas des Alzheimer.
Eh ben, merci beaucoup Michel Jenny, en espérant qu'on a été le plus clair possible. Merci beaucoup, je rappelle donc que vous intervenez pour faire des formations en neurosciences, entre autres sur la mémoire, auprès donc d'enseignants ou d'anciens chefs d'établissement. Vous nous avez donné deux titres qu'on va citer à la fin de cette émission. Tony Buzan, Tout sur la mémoire, c'est ça? Tony Buzan, Tout sur la mémoire. Et surtout Alain Liury, Une mémoire d'éléphant. Pourquoi ce livre peut-être?
Alors parce que, d'une part, il est très facile à lire, il est émaillé de très nombreux exemples et il contient plusieurs techniques associatives qui permettent de consolider.
Alain Liury, Une mémoire d'éléphant. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Francky Guéret. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h si vous voulez vous souvenir de ce qui a été dit et consolider ce qui a été dit ce matin, ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.